Il est 8h17, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est Éric Woerth, député Les Républicains de l'Oise, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour à vous Éric Woerth.
Merci, bonjour.
Qu'est-ce qu'il paye François Fillon selon vous ?
Peut-être de l'imprudence de sa part, qui est aussi une responsabilité, bien sûr. D'abord, je voudrais lui témoigner mon amitié, parce que c'est des moments extrêmement durs, très très durs. Il y a quand même une ambiance autour de ce dossier qui est extraordinaire, qui est cette ambiance d'une précipitation de l'institution judiciaire pour mettre en examen François Fillon à la vitesse de la lumière.
Vous avez été surpris par les peines prononcées ?
Elles sont conformes aux réquisitions qui étaient d'une sévérité extrême. Maintenant, un juge est déjugé par un autre juge, ça s'appelle l'appel. Et j'espère qu'en appel, le procès sera plus serein. Qu'on regardera les faits d'abord, peut-être
qui sont graves,
moins totalement
les faits jugés sont graves, même si je précise qu'il est toujours présumé innocent, évidemment, François Fillon.
Et donc, on regardera l'ensemble. Il a des arguments, peut-être ont-il été sous-estimés, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer sur le fond, mais enfin, en tout cas, également l'ambiance qui a présidé à ce procès, et notamment à l'instruction, soit aussi un peu décodée. On a besoin de clarté. Et vous parliez de présomption d'innocence. François Fillon est toujours présumé innocent, donc c'est extrêmement important. Vous avez raison. Mais il faudrait peut-être que dans notre société où la judiciarisation est de plus en plus forte et personne
n'arrêtera ça. Et vous avez connu ça. J'imagine que vous l'avez vécu aussi douloureusement si vous parlez de ce débat autour de la présomption d'innocence.
La judiciarisation de la société qu'on n'arrêtera pas, elle va être de plus en plus forte, quelles que soient les catégories professionnelles. À côté, de façon symétrique, de façon parallèle, on doit faire augmenter aussi la valeur de la présomption d'innocence. Les deux vont en même temps. Sinon, on sera une société extraordinairement injuste et extraordinairement malveillante.
Venons-en, Éric Woerth, au paysage politique post-municipal. Est-ce que vous aussi, vous allez vous verdir chez les Républicains ?
Mais on l'est, enfin, il y a un moment donné...
Faut oui, bien sûr, l'écologie. Alors, écologiques.
Regardez, le Grenelle de l'environnement, c'était il y a 10 ans, donc il s'est passé beaucoup de choses, et je pense que chacun a apporté dans la société le fait qu'elle puisse évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, culturellement, les Français sont bien plus prêts à faire des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans ou il y a 15 ans.
Oui, mais très honnêtement, l'écologie est en friche chez les Républicains. Est-ce que vous pouvez me citer une mesure phare en ce moment que vous portez ?
Mais on réfléchit autour de la fiscalité écologique. On a par exemple proposé qu'il y ait une part verte dans chaque grand impôt, qu'il y ait une part verte dans la TVA, qu'il y ait une part verte dans l'impôt sur les sociétés, dans l'impôt sur le revenu, qui soit dirigé sur le financement de la transition écologique. C'est des propositions très très précises, alors que le gouvernement en réalité n'en fait pas. La fiscalité verte, c'est absolument fondamental, parce que c'est ce qui vous permet in fine à la fois d'orienter, mais aussi de financer la transition écologique. Je pense aussi
c'était
que...
C'était pas pourtant votre thème de campagne au municipal, hein ? Peut-être que vous réfléchissez pour la suite.
J'aime autant vous dire que c'était le thème de campagne de la plupart des élus. Je ne connais pas de candidat LR qui n'ait pas parler d'écologie, de démocratie participative, etc. dans ces projets. Donc, nous faites pas passer pour des ringards.
Pas du tout. Je vous pose des questions.
Non, mais je lis. Mais d'ailleurs, je note que on a gagné, très largement. On est le parti qui sort le mieux de cette élection, municipale. Quand vous prenez les villes de plus de 20 000 habitants, il y a 454 villes. Il y en a 261 qui ont voté pour un républicain.
Oui, les Verts s'en sont bien aussi sortis.
12 écologistes.
Est-ce que pour
12
vous,
écologistes. Non, il faut juste. Il y a l'arbre et la forêt. Dans le domaine écologique, c'est important, l'arbre et la forêt. Il y a l'arbre et la forêt. Et vous avez 12 écologistes qui sont à la tête de villes de plus de 20 000 habitants.
Oui, mais vous dites vous-même que l'écologie a infusé aujourd'hui, c'est peut-être une victoire culturelle, mais quelle écologie ? Puisque vous citez ces maires, Éric Woerth, est-ce que c'est l'écologie pragmatique qui a gagné ou est-ce que c'est l'écologie décroissante ?
J'en sais rien, parce que les métropoles, on ne peut pas dire qu'entre Bordeaux et je ne sais pas, et d'ailleurs les maires eux-mêmes sont extrêmement différents. Quand vous entendez le maire de Bordeaux, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui est dit ailleurs. Donc je ne sais pas. On verra ce que ça donnera. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas y avoir une différence, une fracture, un gouffre qui à un moment donné souffre entre d'un côté des métropoles et de l'autre l'ensemble du territoire. Ça, c'est une société qui ne peut pas fonctionner. La France, elle est déjà très très fracturée, super fracturée, dans tous les sens, elle ne sait plus où elle habite, donc ce n'est pas du tout le moment d'avoir d'un côté une politique pour la ville et de l'autre une politique pour la campagne.
Et la politique d'Emmanuel Macron à ce sujet, est-ce que vous avez été rassuré, Éric Woerth, soulagé même hier d'entendre Emmanuel Macron rejeter la taxe sur les dévitants des entreprises, écarter le débat sur les 110 km/h issus de la Convention citoyenne pour
raison,
le climat ?
Évidemment qu'il a eu raison. D'abord 150 citoyens, ce n'est pas 65 millions de citoyens. Y a pas, donc ça,
c'est
ça
pas
ne
légitime.
Représente pas. Mais c'est légitime dans la forme où ils sont réunis. Ils sont réunis légitimement. Non,
attendez, vous comprenez ma question. Est-ce que leurs propositions sont légitimes ? Est-ce qu'elles incarnent ce que pense aujourd'hui la société française ?
La légitimité, c'est l'élection. Donc ce n'est pas des Français élus. Rien n'empêche d'ailleurs ces Français d'être élus. Heureusement. Mais 150 personnes ne représentent pas 65 millions d'habitants. Donc il y a des propositions. Il y a aussi un halo d'expertise autour de ces propositions. Donc ces experts ont aussi orienté les choix des uns et des autres. Il y a une démocratie participative dans laquelle on est choisi, mais enfin in fine il y a beaucoup
vous
de gens qui refusent.
Vous n'avez pas l'air d'y croire à cette démocratie
moi, je
délibérative
crois,
écoutez, ou participative.
Quand j'étais maire, j'ai organisé il y a déjà 15 ans des référendums locaux. On essaye de faire en sorte que autour de la démocratie représentative, c'est-à-dire de l'élection, il y a un moment donné, il y a des élections, qu'autour de l'élection, il y a évidemment des phases de consultation et d'interrogation. Ça, c'est très très bien. Mais il ne faut pas confondre tout. Il y a deux valeurs différentes. Il y a la nomination, ce n'est pas tout à fait pareil que la désignation par le scrutin.
Tiens,
et ce que je regrette dans ces élections, c'est qu'il y a eu autant d'abstention. L'abstention a été un élément majeur, probablement les circonstances, sans doute, mais enfin pas que. Ça veut dire aussi que nos concitoyens, ils sont entre deux trucs. Il y a 150 citoyens qui décident pour eux d'un côté, de l'autre, il y a des communes dans lesquelles ils ne viennent pas voter. Il faut bien admettre que tout ça est assez perturbant.
Restons sur la Convention citoyenne. Est-ce que ça vous étonne, Éric Woerth, qu'il n'y ait eu rien ? Rien sur le nucléaire dans cette convention pour le climat, l'énergie nucléaire qui représente 75% de la production d'électricité en France.
Bien, j'ai bien vu cela. Je pense que le nucléaire est fondamental, qu'on doit continuer à appuyer notre industrie nucléaire.
On le fait en ce moment, ironie du calendrier, la centrale nucléaire de Fessenheim ferme définitivement.
A commencé à fermer, ça va durer pendant très très longtemps. Je ne sais pas s'il fallait fermer Fessenheim. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que l'industrie nucléaire, nous en avons besoin. C'est une industrie décarbonée. Alors, je sais bien qu'il y a des lobbies nucléaires, il y a des lobbies anti-nucléaires. Il y a un débat polémique, comme on sait les je sais bien que ça pose des problèmes de traitement de déchets, c'est pour ça qu'il y a Bure. Enfin, quand même, on a besoin d'une énergie décarbonée.
Qu'est-ce que vous répondez hier, Yannick Jadot ?
Il faut classer les choses par priorité.
Hier, Yannick Jadot, à ce micro, en parlant de Fessenheim, il dit que Fessenheim est vieille, elle est dangereuse, elle est coûteuse. Point barre, il faut la fermer.
Oui, mais c'est totalement caricatural. Non, je dis oui, il a dit ça, mais c'est caricatural. Ça n'a aucun sens. On a besoin d'une énergie nucléaire. Si la France est parmi les bons élèves des rejets en carbone, c'est bien grâce au nucléaire. Et le nucléaire, c'est aussi une compétence. Il faut garder cette compétence. Enfin, bref, on va pas passer d'un monde à l'autre comme cela. Ce qui est très très important, c'est que les Français, culturellement, intègre d'autres idées, d'autres façons, d'autres modèles de production. Nous devons produire autrement. On doit raisonner sur les chaînes de production autrement. On doit sûrement vivre et se transporter autrement, manger autrement. Ça veut dire aussi accepter l'augmentation des prix. Ça veut dire aussi accepter peut-être dans un certain nombre de cas la baisse des revenus. Il faut avoir une vision générale des choses. Il faut avoir une vision générale. Nous sommes entre adultes. Et quand on veut transformer une société, il faut avoir une vision globale.
Qui pour la transformer ? Parce qu'il y a le président, hein, c'est sa volonté de se réinventer. Est-ce qu'il peut se passer d'Edouard Philippe ?
Ah ben ça c'est à lui de le dire. Là. Honnêtement, je ne suis pas là ce matin pour nommer le Premier ministre.
Alors c'est
ça,
pas la question. Pas, ça, ce je ne vous demande pas de choisir.
Voyez,
mais écoutez-moi, attendez Éric Woerth. Si Emmanuel Macron garde Edouard Philippe, on dira que le Premier ministre a pris le dessus. Si Emmanuel Macron se sépare d'Edouard Philippe, on dira que le président se prive de quelqu'un qui a fait le job.
Mais Emmanuel Macron est dans une situation comme tout président, dans une situation comme celle-là, c'est très compliqué. Il y a d'un côté des Verts et il faut continuer à aller plus loin dans la transformation écologique de la société, comme il faut aller plus loin dans la transformation numérique et dans la protection des libertés. Il y a beaucoup de sujets de cette nature qui sont fondamentaux.
Ne peut pas porter
si,
ce virage, ce tournant.
Il a porté depuis deux ans et demi. J'en sais rien. Je ne suis pas président de la République.
Vous le connaissez bien. Il
ce
reste un homme
dis,
de droite, d'ailleurs.
Je me fiche du casting. Je me fiche du casting. Le problème, ce n'est pas le casting. Le problème, c'est pourquoi faire. Aujourd'hui, c'est pourquoi faire. La France, elle a besoin un peu de clarification sur ce que le gouvernement fait. Que veut-il faire ? Est-ce qu'il veut faire une transformation et conserver uniquement cette priorité qui est la transformation
Éric Woerth,
écologique ?
C'est toujours un signal.
Est-ce qu'il veut augmenter le revenu des Français ? Est-ce qu'il veut assainir
les finances publiques
devant ce mur de...
Philippe ?
En tout cas, je note que la droite et la gauche, durant ces élections municipales, c'est plutôt une renaissance. C'est-à-dire qu'on a des blocs de gauche et puis on a un bloc de droite. Les Républicains gagnent ces élections municipales. Les écologistes font des percées dans un certain nombre de villes assez spectaculaires. Je note cela. Je note que l'entre-deux, les Français n'ont pas aimé l'entre-deux. Ils ont aimé ou la gauche ou la droite. Voilà. Il faut décider. Et que le
on
casting.
Va conclure, attendez,
vous adorez les remaniements ministériels et les nominations de Premier ministre. C'est pas la question. La question, c'est pour quoi faire. Qu'est-ce que le président de la République a à dire aux Français sur les deux années?
Vous
probablement,
savez que
les
lors de sa nomination,
mois,
il y a quelques temps, vous l'aviez amplement commenté ici même sur Europe 1, celle d'Edouard Philippe. Hein, donc on aura l'occasion d'en reparler au prochain
sans
remaniement.
Doute.
Oui. Merci Eric Vert d'avoir répondu à nos questions. Et bonne journée à vous.
Merci à vous.